Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le vendredi 21 janvier.
Malheur aux enfants des gens heureux, vous qui possédez des locaux vides, habitables, vous qui faites que soient refusés les permis de construire des logements sociaux.
La voix de l'abbé Pierre en 2004, un demi-siècle après son premier appel. Demain, cela fera 15 ans que le défenseur des plus pauvres, des sans-logis, des petits, comme il disait, 15 ans qu'il nous a quittés.
Et sa lutte contre l'exclusion, la précarité, le mal-logement est toujours autant d'actualité, malheureusement.
Et que reste-t-il de l'héritage de l'abbé Pierre? De quelle manière ces combats vont-ils peser sur la prochaine élection présidentielle? Nous serons à 5h45 avec Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. À la une de l'actualité, Julien.
Trois dates à retenir ce matin. 24 janvier, entrée en vigueur du pass vaccinal, c'est lundi qui arrive. 2 février, levée des jauges et fin du télétravail obligatoire. 16 février, réouverture des discothèques et retour des concerts debout. La bamboche est en vue.
Oui, mais pas pour votre invité à 6h10, Julien, qui lui peut d'ores et déjà faire une croix sur ses soirées pour les 3 prochains mois.
3 mois pour dessiner, tenez-vous bien, une BD de 240 pages qui nous plonge dans les coulisses de campagne de 7 candidats à la présidentielle. C'est Paris ambitieux, on va dire, de l'auteur de bande dessinée Mathieu Sapin, qui a beaucoup de talent, mais pas celui de se démultiplier. C'est pourquoi il est allé chercher 5 autres dessinateurs pour l'épauler dans cette course à l'Elysée racontée de l'intérieur.
La BD s'appellera Carnet de campagne et elle sortira juste après le deuxième tour.
Et c'est une rechute pour le récidiviste Mathieu Sapin qui avait déjà croqué la campagne de François Hollande en 2012 et celle d'Emmanuel Macron 5 ans plus tard. Il sera donc avec nous pour nous en parler à 6h10. Et puis juste après, Omblin, votre partition pour conclure cette semaine en beauté.
Et je vous présente l'un des trompettistes français les plus doués de sa génération. Il s'appelle Ludovic Louis. Il a été pendant 10 ans le partenaire de jeu de Lenny Kravitz et il a sorti son premier album, la partition de Ludovic Louis, à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme. On débute cette petite matinale avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Comment s'annonce ce vendredi?
Alors, ça s'annonce un petit peu plus calme qu'hier, mais mitigé. Hein. Il fera plus froid aussi sur la moitié sud du pays. Alors ce matin, nous avons quand même beaucoup plus de gelées qu'hier. Les gelées sont un petit peu plus fortes. Donc faites très attention, en particulier sur les routes du nord-est, puisque le risque de verglas est quasi sûr sur les routes. Hein. On est quasi sûr parce que le sol est très humide. Il y a cette perturbation qui est passée hier, qui a laissé de l'humidité sur les routes. Ce matin, les températures sont très froides, négatives. Donc du coup, le verglas est assuré. Ce matin, la perturbation d'hier s'accroche encore avec pas mal de nuages et de sans pluie, sans neige, mais pas mal de nuages sur tout le quart nord-est du pays. Dans le nord-ouest et dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, c'est ensoleillé. On a toujours du Mistral et de la Tramontane qui soufflent fort. Et puis cet après-midi, c'est mitigé sur la moitié nord avec un peu d'éclaircies, beaucoup de nuages et très ensoleillé dans le sud. Mais les températures baissent. On a moins 6 à 9 degrés ce matin. Cet après-midi, 10 à 14 dans le sud et 4 à 9 sur la moitié nord.
Et au Havre?
Alors très exactement, ouais, faut que j'aille voir.
Là, je suis prise de vous cours. Nous direz ça dans une demi-heure. Merci beaucoup Anissa Haddadi, très bon réveil à tous.
Vous allez en week-end au Havre?
Non, c'est le trompettiste Ludovic Louis qui est originaire du Havre.
Voilà, c'est une petite blague entre nous depuis ce matin. Il est 5h sur Europe 1, hein. Merci de votre fidélité.
Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur.
Plus de masques donc à partir du 2 février, le calendrier de la levée des restrictions sanitaires dévoilé hier soir par Jean Castex, le Premier ministre. À partir du 16 février, réouverture des discothèques, l'horizon semble enfin s'éclaircir. Le retour de la guerre froide, la menace d'un affrontement total plane, les États-Unis mettent en garde la Russie et promettent des sanctions économiques sévères en cas d'invasion de l'Ukraine. Et puis Gianni Infantino n'est pas un bon président. Le tacle de Sepp Blatter, l'ex-président de la FIFA, qui réaffirme son soutien à Michel Platini dans l'affaire du FIFA Gate. Nous l'avons rencontré chez lui, en Suisse.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce vendredi 21 janvier vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Voit-on enfin le bout du tunnel? Le calendrier de levée des restrictions dévoilé hier soir par Jean Castex, le Premier ministre, après un nouveau conseil de défense sanitaire lié à l'épidémie de Covid. Calendrier en 2 temps, on l'écoute.
À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. Le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pourront rouvrir.
Assouplissement progressif des mesures, donc, mais le gouvernement reste relativement prudent.
Oui, hein, 425 000 cas de Covid ont été détectés hier. Paradoxe de l'épidémie, les contaminations augmentent, mais, et c'est sûrement le plus important, Yasmine Akatou, les admissions en réanimation baissent. Alors, quels sont les arguments de l'exécutif ?
Tout d'abord, le variant Delta, plus susceptible de provoquer des formes graves, ne représente que 2% de la totalité des cas. Aujourd'hui, 97% des malades sont infectés avec Omicron. Alors même si Omicron entraîne une hausse des hospitalisations chaque jour, les durées sont plus courtes. En revanche, du côté des soins critiques, s'amorce un début de décrue. Sur les 7 derniers jours, le nombre moyen d'entrées quotidiennes dans ces services a diminué de 15%. Le professeur Djilali Hanan, chef du service réanimation de Garches en Ile-de-France, l'a constaté.
Depuis à peu près une petite semaine, on observe moindre tension. Nous avons moins de sollicitations pour admettre de nouveaux patients avec des formes graves. Néanmoins, restons très prudents avant d'imaginer que nous avons passé le pic de la vague Omicron.
Autre indicateur, le taux d'incidence. Le nombre de cas pour 100 000 habitants diminue en Ile-de-France. Le gouvernement espère le même scénario sur tout le territoire. Il prend comme exemple ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où la région du Grand Londres a atteint son pic 10 jours avant le reste du pays.
Et les précisions de Yasmine Akatou. Cette levée progressive des restrictions sanitaires semble faire effet sur les Français qui voient globalement ces annonces d'un bon œil. Fin du masque en extérieur, du télétravail obligatoire, réouverture des boîtes de nuit, retour des concerts debout. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous sommes allés vous poser la question dans les rues de Paris.
Globalement, mentalement, ça nous ferait tous du bien.
Le sourire d'Inès, 18 ans, à l'idée de retrouver sa vie d'avant, consommer debout dans les bars, danser en discothèque. François et Aurélien seront, eux, dès que possible, sur la piste de danse.
Là, ça fait un moment.
Hâte d'y retourner. Hein.
De pouvoir s'amuser. Les mesures sont vraiment super sympas et on en avait un peu marre du Covid.
On va pouvoir remanger du pop-corn au moins dans les cinémas.
Et faire tomber le masque en extérieur aussi, un soulagement pour Alexis.
Je commence à en avoir un peu marre et je pense pas que ce soit très utile. Retour à la normale, c'est une bonne nouvelle. Je pense que la mentalité des Français et le bien-être a diminué là pendant la pandémie et les sorties et même le bien-être des gens. Je pense que c'est important, ouais.
Tellement important que Firas reste prudent. Il y a comme un air de déjà-vu, souffle le jeune homme.
C'est un peu tôt de crier victoire. C'est toujours comme ça. Des fois, il ferme, des fois, il ouvre, après, il referme. Mais il y a beaucoup de gens qui sont optimistes.
Un optimisme dont il pourrait profiter pleinement lundi grâce à l'entrée en vigueur du pass vaccinal.
Le reportage pour Europe 1 de Caroline Baudry.
Et pour les plus jeunes, dès lundi, tous les 12-17 ans pourront recevoir une dose de rappel contre le Covid. Vaccination des 5-11 ans possible en pharmacie et chez le médecin aussi dans les écoles. Un allègement du protocole sanitaire pourrait aussi être décidé pour la rentrée des vacances de février.
Dans les écoles justement, pas d'effet Ibiza sur la mobilisation des enseignants hier.
Elle était en nette baisse hein, par rapport à la semaine dernière. Le ministère de l'Éducation fait état de 1,15% de grévistes dans les écoles primaires, 2,18% dans les collèges et lycées.
174 millions d'euros, la facture est astronomique.
Oui, c'est celle des fraudes aux aides d'urgence aux entreprises entre fonds de solidarité et activité partielle. Le chiffre est dévoilé par Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, dans Le Parisien ce matin. Par exemple, certains restaurants parisiens ont déposé un dossier en tant que brasserie de montagne, secteur massivement aidé.
5 heures passées de 6 minutes sur Europe 1. Ambiance toujours froide, voire glaciale, entre la Russie et les États-Unis sur le dossier ukrainien.
Les troupes de Moscou sont toujours postées à la frontière et menacent l'Ukraine d'invasion. Pour se protéger, les États-Unis autorisent les pays baltes à envoyer des armes à Kiev. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, lui est à Genève aujourd'hui pour une rencontre cruciale avec son homologue russe. Depuis plusieurs semaines, les menaces de représailles se multiplient. Alexis Guilleux, on en est à quoi aujourd'hui ?
Alors, il y a déjà des sanctions qui ont été prises par les États-Unis. Elles visent des entreprises ou des individus pour les frapper directement au porte-monnaie. 4 ressortissants ukrainiens, dont 2 élus, ont été ajoutés à cette liste hier. Washington les accuse de déstabiliser leur pays. Et il y a d'autres potentielles sanctions plus massives. Les États-Unis et l'Europe essaient de s'accorder sur leur ampleur. On parle beaucoup d'exclure la Russie du système de virements internationaux SWIFT. Un tel choix isolerait Moscou et le commerce russe du reste de la planète. Les États-Unis peuvent également geler leurs exportations vers la Russie. On parle là surtout de produits électroniques, processeurs, cartes à puces indispensables dans des secteurs comme l'armement et l'aérospatial. Washington pousse également depuis plusieurs semaines pour que Berlin intègre le Nord Stream 2 à cet arsenal de sanctions, ce gazoduc qui relie l'Allemagne à la Russie. Cette semaine, le chancelier Olaf Scholz a fini par évoquer cette possibilité. L'enjeu est là pour les alliés occidentaux, trouver le bon degré de sanctions pour que les répercussions sur l'Europe ne soient pas trop fortes, parce que les économies du vieux continent sont encore très liées à la Russie, beaucoup plus que celles des États-Unis.
Merci Alexis Guilleux, correspondant européen aux États-Unis.
On en vient au procès des sondages de l'Élysée. Le tribunal judiciaire de Paris rend sa décision aujourd'hui.
Pour des soupçons de favoritisme et de détournement d'argent public, 5 anciens proches de Nicolas Sarkozy, dont Claude Guéant, connaîtront le verdict en début d'après-midi. Incarcéré depuis plus d'un mois pour une autre condamnation, l'ancien ministre de l'Intérieur, âgé de 77 ans, sera fixé le 7 février sur sa demande de remise en liberté.
On termine ce journal avec les sports et cet entretien exclusif et exceptionnel sur Europe 1 avec Sepp Blatter.
Ancien président de la FIFA, il nous accorde sa première interview depuis sa sortie de l'hôpital. Sepp Blatter, mis en cause dans l'affaire du FIFA Gate, réaffirme son soutien à Michel Platini. Il veut prouver son innocence. Cyril de la Morinerie, Sepp Blatter tacle également son successeur Gianni Infantino.
Oui, Sepp Blatter nous a reçus sur les hauteurs de Zurich, toujours aussi chaleureux et accueillant, mais le visage encore marqué par ses longs mois passés à l'hôpital. Au micro Europe 1 de Lionel Rosso, le Suisse de 85 ans étrille notamment son successeur, Gianni Infantino.
Il n'est pas un bon président, je dois le dire. Il ne fait pas son travail correctement. Mais comme il ne parle pas avec moi, je ne peux pas parler avec lui.
Sepp Blatter aimerait, dit-il, réveiller Gianni Infantino, car l'ancien patron de l'instance mondiale voit d'un très mauvais œil le déménagement de son successeur au Qatar. Gianni Infantino a quitté Zurich, il s'est installé à Doha. Une grave erreur, estime en exclusivité sur Europe 1 Sepp Blatter.
Jamais j'aurais eu l'idée d'aller habiter dans la capitale où l'on joue la Coupe du Monde. La place du président de la FIFA, c'est la place où la FIFA son siège, et c'est à Zurich.
Sepp Blatter croit même savoir que la FIFA a pour projet de déménager son siège à Paris. Quant à ses démêlés avec la justice, Sepp Blatter affirme sur Europe 1 que lui et Michel Platini sont innocents. Et de conclure, la Suisse nous a virés car elle ne voulait pas de Platini à la tête de la FIFA.
Ah ouais. Merci Cyril de la Morinerie. Une interview à retrouver en intégralité dans le studio des Légendes avec Lionel Rosso. Rendez-vous à 20h dimanche sur Europe 1.
C'est noté, merci beaucoup Alban Leprince pour le journal.
Il est 5h09 et on retrouve Thierry Léger pour les courses. Le Paris gagnant, bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon Paris gagnant sera le 705 Cluster. Irréprochable l'an dernier, n'ayant jamais terminé plus loin que 5e en 6 tentatives, il n'a certes pas été revu depuis son excellente 2e place le 12 septembre à Longchamp dans une épreuve similaire, mais je sais qu'il va se présenter d'emblée proche de son meilleur niveau, ce qui doit suffire ici face à une telle opposition pour conclure à coup sûr dans les 3 premiers. Alors notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 5, Cluster.
Cluster, quel joli nom d'actualité. Merci beaucoup Thierry Léger, c'est le numéro 5. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Soyez les bienvenus et vous tombez bien à 5h11 puisque c'est le pressing et nous sommes rejoints par Martin Lange.
Bonjour, bonjour Martin. Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour.
On commence avec les unes de vos journaux comme chaque matin. Allègement des restrictions, sortie de crise en vue. C'est le titre du Parisien aujourd'hui en France avec pour illustration des masques jetés en l'air. Masques qui ne seront plus obligatoires en extérieur dès le 2 février comme l'a annoncé hier soir Jean Castex. L'immigration a fortement progressé en France en 2021. Voilà ce que l'on peut lire en une du Figaro qui relaie les statistiques publiées hier par le ministère de l'Intérieur. Elles montrent que malgré le contexte de crise sanitaire, notre pays reste confronté à une forte pression migratoire. C'est ce qu'écrit le quotidien. Et puis, qui c'est les moins forts, interroge en une l'équipe au sujet du choc de la 22e journée de Ligue 1, le derby du Rhône, Lyon-Saint-Etienne, c'est ce soir, 21h. Voilà pour les unes les plus marquantes. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ce matin?
Alors, on en parlait, on l'a évoqué dans le journal de 5h, ce petit focus du Parisien aujourd'hui en France sur les petits malins
qui ont voulu profiter du fonds de solidarité des petites combines repérées par des inspecteurs de la direction des grandes entreprises rassemblées dans une task force. Alors je dis petites combines. Ils ont quand même permis d'éviter, ces contrôleurs, le versement de 10 milliards d'euros d'aides injustifiées depuis le début de la crise sanitaire. Voilà, les contrôles ont détecté quand même 8 000 dossiers frauduleux, c'est-à-dire plus de 174 millions d'euros détournés. Alors on se l'est déjà dit, plus c'est gros, plus ça passe en tout cas. Plus c'est gros, plus ça se tente, comme ce patron qui fait sa demande d'aide et joint à son dossier son RIB personnel et non celui de la société. Pas de problème. Certains entrepreneurs n'ont même pas pris la peine d'envoyer un dossier. Juste le RIB. Voilà, si on a un malentendu, ça peut peut-être marcher, comme on dit. Les contrôleurs ont remarqué que beaucoup d'entreprises changeaient de secteur du jour au lendemain. Comment, en quelques clics, un restaurant se transforme, pouf, en salle de sport. Mieux, une société des Yvelines disait être une entreprise de télésiège. Forcément, ça fait un peu tiquer. Hein, c'est... Bon, ou du moins, on va aller vérifier. D'ailleurs, certains ont flairé le bon coup avec le secteur de la montagne, massivement aidé l'an dernier. Mmh. Des restaurants parisiens ou marseillais domiciliés subitement dans les Alpes, hein, par exemple, il existe un outil pratique qui s'appelle Google Earth, dont usent d'ailleurs les contrôleurs. Ça se voit, hein, une brasserie au bord de la Méditerranée.
Oui, puis on ne connaît pas les arrondissements à Avoria ou à Morzine.
Non, c'est ça. Non, mais ça... Bon. Mais l'une des combines les plus utilisées reste les entreprises qui retrouvent par enchantement une activité alors qu'elles étaient en sommeil depuis des années. Elles se retrouvent d'un coup avec des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Bah oui, ça se tente encore, ça se voit. Enfin, ces déclarations avec des chiffres ronds, 100 000 euros. Tout pile de chiffre d'affaires. Alors quand les contrôleurs ont un doute, et ça arrive souvent, ils demandent des documents complémentaires et surtout validés par un expert comptable. Encore faut-il que l'expert comptable ne soit pas radié de l'ordre du vécu aussi. Voilà, les combines des escrocs pour bénéficier du fonds de solidarité, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Si c'était pas si triste, voilà. Ce serait quand même assez rigolo.
Vous savez tout ce qu'il ne faut pas faire pour pas se faire gauler.
Voilà. C'est un tuto.
Voilà, petit tuto du Parisien.
On n'a pas d'argent, mais on a des idées.
Voilà, merci beaucoup, Ombline. Martin,
avec plaisir.
C'est à vous.
Oui, avec l'histoire ce matin de ce snowboarder français. Il s'appelle Victor Davier. Et son principal fait d'arme, ce n'est pas une médaille olympique, un titre de champion du monde ou encore une figure acrobatique. Non, Victor Davier a sauvé la vie de 14 jeunes Afghans menacés de mort par les talibans. Alors cette histoire, elle commence en 2020. Le snowboarder participe à une compétition caritative à Malam Jaba. C'est une des deux stations de ski du Pakistan, enfin station de ski. Il faut plutôt imaginer une remontée mécanique unique et une piste rouge, plaisante Davier. Là-bas, il fait la rencontre de 14 jeunes Afghans, donc des passionnés de glisse comme lui, avec qui le contact passe bien. De retour en France, ils échangent quelques messages jusqu'à l'été dernier. Le tragique été 2021, les talibans viennent de prendre Kaboul et Victor reçoit un appel au petit matin. C'est l'un de ces snowboardeurs afghans. Il lui explique qu'ils ont reçu des menaces de mort. Visiblement, les talibans n'aiment pas trop le snowboard. Les plus en danger,
j'aime pas grand-chose.
Évidemment, ce sont les femmes de l'équipe. Hein. Et désespérément, il lui demande de l'aide. Incrédule, Victor ne sait pas trop comment réagir. « Je ne suis qu'un mec qui fait du snow », dit-il aujourd'hui. Il contacte quand même l'ambassade, évidemment sous l'eau. Elle ne peut rien faire pour le moment. Mais Davier a des ressources. Il parle des Afghans à ses amis de la glisse et monte une petite équipe. Mission exfiltration. Alors ça commence par une collecte de fonds, hein, parce que sortir 14 personnes illégalement d'un pays, ça coûte cher. Il faut payer le transport, les milices, les checkpoints. Une fois l'argent récolté, l'opération commence, ou plutôt les opérations, car tout le monde ne suit pas le même parcours. Finalement, après plus de 6 mois de stress, hein, les 14 Afghans ont pu quitter le pays. 6 ont même déjà une situation stable en Europe ou en Amérique du Nord, avec un visa au long cours. Hein. Mais les 8 derniers sont toujours au Moyen-Orient, dans des pays frontaliers de l'Afghanistan. Hein. Victor continue de les aider financièrement. Il paye notamment les pénalités pour leur visa expiré, hein, sans quoi ils pourraient être renvoyés en Afghanistan, ce qui pourrait leur coûter cher. Ils sont en danger, lance Victor, hein, comme un cri du cœur. Vous pouvez d'ailleurs leur donner un petit coup de pouce, hein, sur le site de son association. Ça s'appelle Snowboarders of Solidarity. Victor Davier raconte l'extradition irréelle de l'équipe afghane de snowboard. C'est à retrouver sur le site de 20 minutes.
C'est une jolie histoire. Merci de nous l'avoir partagée, Martin. J'ai choisi pour ma part une histoire un peu moins jolie. Un article à lire sur le site de l'équipe qui raconte par le menu comment un footballeur mondialement connu pourrait passer les 9 prochaines années à l'ombre. 9 ans de prison, c'est la peine à laquelle a été condamné le Brésilien Robinho par la justice italienne pour viol en réunion. Un jugement de novembre 2017, confirmé en appel 3 ans plus tard et définitif depuis mercredi, depuis que la Cour de cassation de Rome a rejeté le pourvoi de l'ancienne star de la Seleção. Robson de Souza, alias Robinho, est l'un des meilleurs attaquants brésiliens des années 2000. Rapide, technique, spectaculaire, le gamin de Santos dribble les défenses avec une telle aisance qu'il est désigné à ses débuts comme le nouveau Pelé. Mais n'est pas roi qui veut, Même au club du Roi, le Real Madrid, où après quelques honnêtes saisons, le dynamiteur Robinho apparaît de plus en plus comme un pétard mouillé. La faute, un rythme de vie guère compatible avec celui d'un sportif de haut niveau. Robinho aime faire la fête un peu trop et fatalement ça se paye en blessures et kilos en trop. Nous voilà donc début 2013 et le Brésilien, alors âgé de 29 ans, est déjà au crépuscule d'une carrière décevante. Il cire assidûment le banc de touche du Milan AC et fréquente donc assidûment les carrés VIP des boîtes de nuit locales, dont le Cio Café, là où le 22 janvier, une jeune femme venue fêter son 23e anniversaire croise malheureusement la route de l'attaquant. Ce dernier, avec plusieurs de ses amis, profite sciemment de l'état d'ébriété avancé de la victime pour la violer. Une fellation consentie, assurent les avocats de Robinho, dont l'épouse venait de quitter les lieux. Détail sordide qui permet de mieux cerner ce charmant personnage. Les écoutes téléphoniques ordonnées par la justice italienne quelques mois plus tard viennent compléter ce portrait, celui d'un individu parfaitement conscient d'avoir abusé du degré d'alcoolémie de sa victime et qui n'exprime absolument aucun remords. « Mon erreur, c'est d'avoir trahi ma femme, pas d'avoir violé cette fille. » Voilà ce que Robinho a dit mot pour mot dans une interview il y a 2 ans à un média de son pays, le Brésil, où il est rentré fissa, étonnamment, à peine l'affaire étalée dans la presse italienne.
Du coup, est-ce qu'il va réellement les faire, ces 9 ans de prison ?
Rien n'est moins sûr. La justice italienne peut demander son extradition, mais le Brésil, comme la France et de nombreux autres pays, refuse de livrer ses propres citoyens. Par ailleurs, le traité de coopération judiciaire passé entre Rome et Brasilia ne prévoit pas l'application sur le territoire brésilien d'une condamnation prononcée par la justice italienne. C'est en tout cas ce que prétendent les avocats de Robinho. Mais certains juristes ne sont pas aussi catégoriques, je vous passe les détails, mais d'après eux, rien n'interdit la justice brésilienne de reconnaître la condamnation italienne et donc de la faire appliquer. Les Brésiliens, en tout cas, n'ont pas attendu que leur justice se saisisse éventuellement du problème pour condamner à leur manière Robinho, passé de super-héros à triple zéro, notamment sur les réseaux sociaux où la plupart des messages comportent ces derniers jours les mots « violeur » et « criminel ». Voilà qui, pour une fois, est rassurant.
C'est dans le journal de l'équipe ?
Absolument.
Dans le journal de l'équipe, merci.
Dans le même genre, je vous conseille la série sur Benjamin Mendy dans l'équipe cette semaine, dans le genre « Descente aux enfers » d'un footballeur. C'est assez édifiant.
C'est une belle semaine sportive. Hein, merci beaucoup Julien et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
Tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, si vous venez de vous réveiller, le journal permanent Alban Le Prince.
Et le Conseil constitutionnel rend son avis aujourd'hui sur le pass vaccinal. Sauf décision contraire, il entrera en vigueur lundi, fait savoir Jean Castex. Le Premier ministre a dévoilé hier le calendrier d'allègement des restrictions. 2 dates à retenir, le 2 février, déjà fin du masque obligatoire en extérieur. Le télétravail ne sera plus imposé. Les jauges disparaîtront dans les enceintes sportives et salles de spectacle où le public est assis. Le 16 février, ensuite réouverture des discothèques, consommation debout dans les bars à nouveau autorisée. Dans les écoles, un allègement du protocole est envisageable après les vacances de février. Mobilisation en nette baisse hier d'ailleurs par rapport à la semaine dernière. 1,15% de grévistes dans les écoles primaires, 2,18% dans les collèges et lycées selon le ministère de l'Éducation. Et puis 2 jours après la mort de Gaspard Ulliel, l'enquête se poursuit. Le skieur avec qui il est entré en collision, un Lituanien d'une 40 d'années, a été entendu comme témoin. D'autres auditions doivent avoir lieu dans les prochains jours.
Europe 1. Il est 5h20, très bon réveil avec nous et avec à présent les initiatives en France. On met en lumière chaque jour celles et ceux qui font bouger les lignes. Et ce matin, Julien, direction les Bouches-du-Rhône.
Bonjour Solena Canale-Parola.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes la cofondatrice de Searitis, une start-up basée à Aix-en-Provence qui veut protéger l'un des trésors du bassin méditerranéen, ses cultures d'olivier. Expliquez-nous.
Oui, exactement. Donc avec Searitis, on développe une alternative aux pesticides et aux insecticides contre la mouche de l'olive, le principal ravageur oléicole.
Alors avant que vous nous expliquiez en détail le fonctionnement de votre dispositif, il faut préciser que cette mouche dont vous venez de nous parler, elle fait des ravages chaque année dans les cultures, des ravages considérables ?
Oui, totalement. Aujourd'hui, en fait, la mouche a plusieurs vols. Donc il y a des années où il y a une forte intensité de mouche, d'autres moins. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si les parcelles ne sont pas protégées, les ravages sont énormes, autant financiers que sur les récoltes et sur les fruits.
Alors qu'est-ce que vous proposez justement pour protéger ces parcelles ?
Alors nous, chez Searitis, nous avons développé une solution complète contre la mouche qui est représentée par un système technique, donc un piège attractif et des solutions à pulvériser, attractives et répulsives. Comment ça se matérialise? Nous avons donc une solution répulsive qui imite ce qui se passe dans la nature entre la mouche et le fruit. Pareil pour l'attraction. Et cette solution répulsive est diffusée sur la parcelle. Donc ça fait vraiment comme un... ça permet de dévier les mouches de la parcelle et de les attirer avec la solution attractive à l'extérieur de la parcelle pour ensuite les piéger dans un piège qui lui-même diffuse cette solution.
Et cette solution répulsive, elle est 100% naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit chimique qui n'est utilisé dans sa composition?
Voilà, autant la solution attractive que répulsive est naturelle, nous n'utilisons pas de produits chimiques. Ce qui est utilisé, ce sont des molécules qui existent dans la nature entre l'arbre et le ravageur.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, la molécule que vous utilisez, elle provient des mouches elles-mêmes. C'est ça, c'est l'odeur, entre guillemets, qui est laissée après le passage d'une mouche sur une olive.
Alors oui, ce sont des molécules olfactives. Donc c'est ce qui permet d'attirer le ravageur par l'arbre et derrière de laisser du coup un jus de pomme qui lui, on va dire, répulse ses congénères une fois que la mouche a pondu sur le fruit.
L'oléiculture aujourd'hui, c'est une grande consommatrice de pesticides?
Oui, bah, comme toute l'agriculture, hein. Nous aujourd'hui nous travaillons sur l'arboriculture particulièrement, mais l'agriculture plus généralement utilise énormément de pesticides et d'insecticides, bien que certains pesticides et insecticides tendent à disparaître dans les années à venir.
C'est comme ça que vous est venue l'idée de créer Cearitis avec votre cousine, en constatant par vous-même les dégâts que provoquent les pesticides sur la biodiversité?
Totalement, avec Marion Canal, donc mon associé et aussi ma cousine, nous sommes petites filles d'oléiculteurs et donc nous avons des parcelles oléicoles en Italie et nous avons vu nos grands-pères utiliser souvent des produits, soit des produits naturels, soit des pesticides insecticides et nous avons vu les ravages, du coup, les dégâts que cela causait, autant sur la biodiversité que sur les personnes qui les utilisaient, oui.
Donc c'est une idée qui a mis du temps à germer. Combien de temps vous avez mis pour la développer?
Alors c'est ma cousine qui est ingénieure en biologie qui a développé cette idée durant ses études, durant son parcours scolaire. Ça fait 6 ans qu'elle travaille sur la solution contre la mouche de l'olive, sur la recherche et le développement de cette solution en laboratoire. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que Cearitis a été créé. Nous avons été créés en mars 2020. Et nous travaillons toujours à ouvrir notre gamme de produits sur d'autres ravageurs.
Vous l'avez testé grandeur nature, votre système?
Oui, nous avons terminé nos essais terrain en 2021. Ces essais terrain qui nous permettent ensuite de passer à la phase d'homologation pour notre produit et pour pouvoir arriver à la commercialisation, donc l'autorisation de mise sur le marché.
Les résultats que vous avez obtenus sont aussi bons que si vous aviez utilisé des produits chimiques, des produits phytosanitaires?
Alors, pas tout autant, mais oui, ils sont très bons. Nous avons une belle preuve d'efficacité. Nous avons encore quelques points à améliorer, mais nous avons réussi à avoir plus de 90% des parcelles protégées avec notre solution. On compte à peu près 94-96 avec les pesticides et les insecticides. Donc oui, on a une belle preuve d'efficacité avec la solution.
Alors, vous étiez il y a quelques jours à Las Vegas, au fameux CES, le grand salon consacré à l'innovation et à l'électronique, où vous avez gagné un prix. Félicitations.
Merci, merci beaucoup.
Ça a été une bonne expérience?
Totalement, une très bonne expérience. Le CES permet de rencontrer énormément de personnes intéressantes. Ce qu'on voulait, c'est avoir une très bonne visibilité et surtout pouvoir rencontrer des personnes expertes dans le domaine agricole sur différents marchés. Il y avait à peu près des personnes de toute l'Europe et aussi beaucoup d'Amérique, donc on a pu faire de très belles rencontres. Et bien sûr, d'avoir cet award nous a permis d'avoir une très belle visibilité.
Les États-Unis, et je pense pas en particulier à la Californie, qui est un marché éventuel pour vous, un gros marché à l'avenir. Je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Solena Canale-Parola, de nous avoir présenté Cearitis, l'entreprise qui veut protéger nos oliviers sans nuire à la planète. Bonne journée.
Merci
à vous et à bientôt.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Très bon début de matinée sur Europe 1, bon vendredi 21 janvier avec de la bonne musique en perspective dans la prescription culture.
Oui, la sortie du nouvel album de Years and Years. Le duo avec Kylie Minogue, extrait de ce 3e disque qui s'appelle Night Call, c'est le choix de Stéphanie Loire dans 20 minutes.
Et puis demain, nous célébrerons le 15e anniversaire de la disparition de l'abbé Pierre.
Ces combats contre l'exclusion, contre le mal logement, pour les plus démunis, sont-ils plus difficiles à mener depuis sa disparition? Et quelle place va être donnée à la lutte contre la pauvreté au cœur du débat présidentiel? Nous serons dans un quart d'heure avec Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Anissa Haddadi de retour pour la météo et avec un vendredi nuageux en perspective.
Bah oui, ce sont les restes de la perturbation d'hier. Donc ce matin, des Hauts-de-France jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, des Ardennes au Lyonnais, du Massif central jusqu'aux Pyrénées, on a beaucoup de nuages. Alors en fait, pour faire simple, je vais vous dire là où il va faire beau, c'est en Bretagne, sur les Pays de la Loire, la Normandie et le sud de la France, le pourtour méditerranéen. Voilà, là, il y aura du soleil partout ailleurs. C'est très nuageux. Attention dans le Grand Est, au verglas ce matin, on risque vraiment d'en avoir sur les routes parce qu'on a l'humidité de la perturbation d'hier plus les températures négatives de ce matin. Le Mistral et la Tramontane souffrent toujours très fort au bord de la Méditerranée jusqu'à 80 km/h cet après-midi. Au nord de la Loire, on a un ciel qui va alterner entre nuages et éclaircies, hein, ça reste assez nuageux. Et puis sur la moitié sud, c'est plus ensoleillé, sauf du côté du Pays Basque, de l'Occitanie, où là, ça reste nuageux. Alors, les températures, Flavienne nous signale 0 degré à Reims sur Twitter ce matin. Vous pouvez nous dire hein, quelle est la température chez vous. On a moins 5 à Aurillac, moins 4 à Belfort, moins 3 à Montauban, moins 2 à Clermont-Ferrand, un petit degré à Paris, 5 à Cherbourg. Cet après-midi, comptez 2 à Épinal, 14 à Ajaccio.
Merci Anissa Haddadi et merci à Flavienne pour son message. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Il fallait lâcher du lest, c'est urgent quoi. Avec la situation actuelle, ce qu'on a supporté là depuis 2 ans, c'est très compliqué.
Soulagé mais prudent, ce patron de bar marseillais réagit à la levée des restrictions annoncées par le gouvernement. Un programme qui tient en 2 dates, les 2 et 16 février. Le détail dès le début de ce journal. L'avertissement du Comité international olympique aux athlètes qui s'apprêtent à disputer les Jeux d'hiver de Pékin. Prière de ne pas vous exprimer sur les droits de l'homme. Et puis une pièce de théâtre culte de retour, le retour du canard à l'orange. C'est sur la scène de la Michaudière à Paris.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Peirce.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamain. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. L'exécutif lâche donc un peu de lest dans la lutte contre l'épidémie. Une série d'annonces qui tient en 2 dates. Le 2 février, fin du port du masque à l'extérieur, des jauges dans les lieux publics comme les stades par exemple et du télétravail obligatoire. Le 16 février, réouverture des discothèques, les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars et les restaurants. Un ensemble de mesures très attendues par les cafetiers. Reportage à Marseille, Stéphane Burgat.
Sa clientèle ne sera bientôt plus forcée de rester assise pour consommer. Un détail qui change tout pour Julien, gérant du pub Le Corner.
Dans les bars, la deuxième partie de soirée, et là où vraiment on va dire le volume d'affaires le plus important, c'est effectivement les gens qui sont debout, qui peuvent un peu s'enjailler, voilà, consommer accoudés au comptoir, qui peuvent danser un peu. Aujourd'hui, le masque, le pass sanitaire, le fait d'être assis, c'est bloquant pour les gens. Et le chiffre n'a subi les conséquences, voilà, 30 à 40% de moins.
Lui s'attendait à rester fermé plus longtemps encore. Yann Cloître, le co-gérant de la discothèque Le Trolleybus, est à la fois ravi et dubitatif.
Oui, c'est une bonne surprise, tant mieux, parce que c'est notre métier de travailler, déjà. Oui, on est content. Bien sûr, c'est positif, mais il y a quand même 2 mois de gâchis. Et on comprend toujours pas pourquoi on a été fermé du coup. Voilà.
Et derrière ce soulagement, il y a aussi l'urgence de retrouver une activité normale pour Marc Ménétrix du Havana Café.
Il fallait lâcher du lest, c'est urgent, quoi. Qu'on puisse retravailler normalement, hein. Ça devient très difficile à supporter parce qu'on travaille au ralenti, donc avec la situation actuelle, ce qu'on a supporté là depuis 2 ans, c'est très compliqué, quoi.
Et cette levée de restrictions arrive peut-être même trop tard, selon lui. Beaucoup de ses voisins n'arriveront pas à sauver leur affaire. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et même s'il se montre prudent, ces mesures étaient très attendues par le secteur de l'hôtellerie-restauration. Quant au monde du spectacle, en général, il n'a pas été oublié non plus.
Il faudra attendre là aussi le 16 février pour pouvoir manger des pop-corns au cinéma. On pourra également manger un sandwich dans les stades et les transports. Mais pour la Fédération française de rugby, la meilleure nouvelle, c'est la levée des jauges dès le 2 février dans les stades. 4 jours plus tard, le 6 en effet, le 15 de France ouvrira le tournoi destination à Saint-Denis face à l'Italie. Avec du public, ça change tout, comme l'explique le vice-président Serge Simon.
Très 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 grande et belle nouvelle, oui. Avec un match le 6 février, on avait déjà vendu des dizaines de milliers de billets, donc on était sinon inquiets, en tout cas attentifs à la décision. Et c'est un grand soulagement d'imaginer le 15 de France devant son public, pour l'Italie, pour l'Irlande, puis évidemment pour l'Angleterre. Quelque part, il y a une espèce d'amputation du match, hein, quand on jouait devant un huis clos et même devant une jauge limitée, de plus... C'est beaucoup de soucis organisationnels et pour aussi un préjudice financier qui est très très conséquent. Donc voilà, jauge normale, stade plein devant des supporters en fusion, devant un 15 de France performant. C'est une grande joie encore une fois, je me répète.
Le vice-président de la Fédération française de rugby, Serge Simon, avec Axel May, le Premier ministre, qui renvoie au 7 mars l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles, c'est-à-dire au retour des vacances scolaires pour les élèves des trois zones.
En revanche, le gouvernement s'accroche à son passe vaccinal dont l'entrée en vigueur est prévue lundi prochain.
Le Conseil constitutionnel doit rendre son avis aujourd'hui, mais s'il le valide, le passe vaccinal sera obligatoire dès 16 ans pour fréquenter la plupart des lieux de vie comme les cafés, les cinémas ou encore les musées. Lundi prochain, c'est également la date retenue pour le rappel vaccinal des adolescents de 12 à 17 ans. Rappel recommandé, mais pas obligatoire, précise l'exécutif.
Sur le plan strictement sanitaire, maintenant, la situation reste pour le moins contrastée.
Et c'est l'analyse qu'en fait le Conseil scientifique. Les contaminations continue de s'envoler, plus de 330 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne, chiffre à relier au nombre total de dépistages effectués, plus de 11 millions la semaine dernière. Dans les hôpitaux, le nombre d'entrées en soins critiques est en baisse de 14% sur une semaine. 3 842 malades y sont actuellement soignés.
L'événement passerait presque inaperçu et pourtant nous sommes à 2 semaines de l'ouverture des Jeux d'hiver de Pékin. La Chine craint plus que jamais la liberté d'expression et le virus.
La 15 jours de la cérémonie d'ouverture, l'avertissement vient d'en haut. Le Comité international olympique et les autorités chinoises ne veulent pas que ces Jeux se transforment en tribune politique. Les athlètes sont donc priés de se taire. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
Avec la pandémie, c'est l'autre grande menace de ces Jeux olympiques de Pékin. Les autorités redoutent en effet que certains athlètes profitent de l'événement pour critiquer la Chine. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Australie, ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux en raison des violations des droits de l'homme en Chine. Un boycott qui ne concerne pas les athlètes. Alors le CIO leur a conseillé de tenir leur langue, sous peine de sanctions. Un message appuyé par le porte-parole de la diplomatie chinoise.
Le Comité international olympique a publié une déclaration sur l'interdiction des manifestations politiques et demande aux athlètes de ne pas protester sur les sites ou les podiums olympiques. Nous espérons que certains médias ne sortiront pas les choses de leur contexte et n'en feront pas un battage malveillant pour attaquer la Chine.
Les athlètes seront donc placés sous haute surveillance, y compris sur leur téléphone portable. Selon un laboratoire de recherche canadien, l'application servant de passe sanitaire aux participants comporterait des failles de sécurité permettant d'espionner les conversations. La Chine affirme les avoir corrigées, mais plusieurs pays conseillent à leur délégation de n'utiliser que des appareils jetables. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
Le dialogue a-t-il encore ses chances dans le conflit qui oppose la Russie aux Occidentaux à propos de l'Ukraine? Le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer son homologue russe aujourd'hui à Genève, alors que Moscou a amassé plusieurs dizaines de milliers de soldats le long de la frontière ukrainienne. Washington réplique et autorise les Pays-Bas, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie à fournir des armes à l'Ukraine, notamment des missiles anti-chars. Le football a un derby pour ouvrir la 22e journée de Ligue 1, Lyon-Saint-Etienne ce soir à 21h. Et puis au championnat d'Europe de handball, les Bleus poursuivent leur sans faute. Victoire 34-24 contre les Pays-Bas hier soir.
On ouvre notre page culture avec le retour d'une pièce de théâtre qui a connu par le passé beaucoup de succès.
Le Canard à l'Orange revient sur les planches du théâtre de la Michaudière à Paris, adaptation d'un classique de l'auteur britannique William Douglas Home. Il s'est signé Nicolas Briançon. L'histoire, c'est celle d'un animateur volage de la BBC qui ne supporte pas l'idée que sa femme le quitte pour un amant plus fortuné que lui. Il met alors en route une machination pour la reconquérir. Naïma Benjamin.
Dis-moi, quand tu commençais à avoir des doutes à mon sujet?
La première fois que je t'ai vue, chérie, je me suis dit que tu étais trop belle pour moi, mais je me suis dit aussi que ça valait quand même le coup d'essayer.
Et après ça, plus jamais de soupçons d'inquiétude.
Non, plus rien pendant 15 ans, jusqu'à la semaine dernière.
L'éternel trio, le mari, la femme et l'amant, mais avec la pâte élégante de Nicolas Briançon, dont la recette épicée du canard à l'orange a été couronnée d'un Molière en 2019.
C'est un joueur, Preston. La pièce commence, il joue aux échecs avec sa femme, c'est la métaphore de la pièce. Elle lui dit, mais c'est impossible de te battre, il la mimate en 3 coups, voilà. On sait qu'il va gagner, finalement. Toute la pièce, ça consiste à regarder comment il va gagner.
Réplique savoureuse mise en scène endiablée, portée par une brochette de comédiens survoltés, on ne cesse de rire.
Et même si c'est une pièce anglaise, adaptée par Sauvageon, mais il y a une empreinte, il y a une patte, il y a des chutes, il y a des façons de finir les scènes, tout d'un coup, sur 2 mots, et qui embarquent une pièce, quoi.
Je crains malheureusement qu'il nous faille patienter un petit moment avant de passer à table. On a quelques ennuis avec le canard.
On m'écoute pas, alors évidemment ça peut durer des heures.
On ne badine pas avec l'amour, ça Nicolas Briançon l'a bien compris. Échec et mat.
Naïma Benchemann, le canard à l'orange au théâtre de la Michaudière à Paris, c'est jusqu'au 10 avril.
Et c'était le canard de 5h30 présenté par Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses, présenté par Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction Cagnes-sur-Mer pour ce quintet à handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 5 à 8 ans sur la distance de 1500 mètres. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic le numéro de Romero, qui certes va disputer son premier handicap, mais jugé sur ce qu'il vient de réaliser lors de ses trois dernières sorties, il possède à l'évidence une première chance théorique. On lui opposera les numéros 3 Norwegian Sir et 11 J'aurais dû, deux pensionnaires de Cédric Boutin, qui auront pour eux leur expérience dans cette catégorie, avec Jacko Boy, le numéro 14, réservé depuis plusieurs semaines en vue de cet objectif. Enfin, les numéros 13, Vautrin, 6, Houtonne, 4, The Live Freedom et 5, Perles de Nuit, peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 2, 3, 11, 14, 13, 6, 4 et 5.
Et vous retrouvez tous ces pronostics dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Le jour où, à 6h20, les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe 1.
C'était le 22 janvier 1998, le déplacement à Cuba du pape Jean-Paul II. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Première visite d'un souverain pontife sur l'île communiste. Élise, après des années de répression anticatholique, le régime de Fidel Castro a donc décidé d'ouvrir ses portes au pape.
Oui, une visite de 5 jours très attendue de Fidel Castro lui-même qui voulait voir le pape se dresser contre l'embargo imposé depuis 62 par les États-Unis et des Cubains qui espéraient un peu plus de souplesse de la part de leur régime, comme le raconte Jean-Bernard Cadier, l'envoyé spécial d'Europe 1 qui a couvert l'événement.
J'espère que le pape va se prononcer pour la liberté d'expression. Gustavo est le seul à avoir bien voulu se prononcer sur cette question, ce qui prouve qu'il reste du chemin à faire.
Pour l'occasion, le régime castriste avait mis les petits plats dans les grands. Il avait autorisé les Cubains à fêter Noël un mois plus tôt, une première depuis plus de 30 ans, et les avait appelés à suivre la messe pontificale de Jean-Paul II. D'ailleurs, à son arrivée, le pape a été accueilli par Fidel Castro en personne, qui avait pour l'occasion troqué son habituel treillis militaire pour un costume cravate.
Bienvenido a Cuba.
Autant d'attention auquel le souverain pontife a répondu sans ambiguïté.
Que Cuba s'abra al mundo y que el mundo s'abra a Cuba.
Que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba, autrement dit que l'embargo des États-Unis soit levé.
Mais il est allé plus loin, Élise.
Oui, Jean-Paul II a prié pour que Cuba offre à chacun un climat de liberté, un message accueilli avec une joie immense par les catholiques pratiquants de l'île, réduits au silence depuis les années 60. Écoutez la ferveur de ceux qui ont escorté la Papa Mobile dans les rues de la Havane.
Dios te amo, Dieu t'aime, chante un groupe de catholiques. Il nous apporte un message de paix, de fraternité, d'harmonie et d'amour, tout ce qui nous manque tant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les catholiques pratiquants en croient à peine leurs yeux. Les voilà qui ont le droit d'entonner des cantiques sur la place de la Révolution, dans un pays où les processions sont toujours interdites par la loi.
Un changement de ton qui a tout de même laissé une partie de la population très sceptique.
Tout le monde a commencé à être religieux, catholique. Parce qu'avant, tout le monde était normal. Maintenant, c'est la mode.
Je ne crois pas que ça sera tellement durable.
Alors, qu'en est-il réellement ?
Eh bien, cette visite a marqué un réel tournant dans l'histoire de Cuba. Plusieurs prisonniers politiques et religieux ont été libérés à la demande du Vatican. Noël est resté un jour férié et les relations entre l'Église cubaine et le régime se sont progressivement normalisées. Jean-Paul II a également ouvert la voie à ses successeurs, Benoît XVI et le pape François, qui eux aussi ont foulé les terres de l'île communiste.
Merci beaucoup Élise Dangean, c'était le jour où. Vous restez avec nous à suivre les 15 ans de la disparition de l'abbé Pierre.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h43 sur Europe 1, très bon réveil à tous. Demain, 22 janvier, nous célébrerons le 15e anniversaire de la disparition de l'abbé Pierre. Ses combats contre l'exclusion, contre la pauvreté et le mal logement restent malheureusement plus que jamais d'actualité. On en parle, Omblin, avec le sociologue Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Bonjour Christophe Robert.
Bonjour.
La mémoire de l'abbé Pierre reste vive, hein. C'est une question qu'on se pose chaque 22 janvier et peut-être plus encore 15 ans après. Que reste-t-il de l'héritage de l'abbé Pierre ?
beaucoup de choses concrètes en fait, c'est-à-dire qu'il a créé un mouvement très vaste d'action en quelque sorte à l'international comme en France. Alors bien sûr la Fondation Abbé Pierre dans laquelle je me trouve, je pense aussi à un bailleur social qui s'appelle Emmaüs Habitat, Emmaüs Solidarité qui fait de l'accueil pour personnes sans domicile, sans abri, toutes les communautés qui existent en France et à l'international également. Finalement, il y a une émanation d'actions qui sont nées de cet infatigable combattant contre l'exclusion et qui continue. Donc sa mémoire vit à travers ses réponses apportées au quotidien. Et puis elle vit aussi à travers finalement quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire plus de 60 ans de combat sans relâche pour changer les choses, c'est-à-dire changer en étant acteur, mais aussi changer en exigeant que les responsables politiques, que la puissance publique dans son ensemble fassent autrement, partagent davantage les richesses, se préoccupent des plus fragiles, leur tendent la main. Et ça, si vous voulez, j'allais dire, il nous manque. Mais en même temps, il nous a laissé cette force de ne jamais s'habituer à la pauvreté, à la misère, aux inégalités, au mal logement, et la nécessité d'agir là où on est, qui que l'on soit, pour pouvoir changer le monde. Au fond.
Est-ce que les batailles sans lui, depuis 15 ans, sont plus difficiles ? Est-ce que vous diriez ça ?
Incontestablement, parce que, alors moi je parle pour la période que j'ai connue à ses côtés, une telle force et une écoute de la part de responsables politiques très importante qui faisait que quand certains étaient tentés, pour des raisons multiples et variées, de changer des lois ou de ne pas suffisamment prendre en compte les plus fragiles, sa manière de dire « non mais là ça va pas, c'est pas comme ça que ça peut marcher » était très efficace en quelque sorte et il était très écouté. Donc forcément, quand on a une force individuelle comme celle-là et que ça devient une image collective, ça modifie profondément les choix, les arbitrages, les actions qui sont menées. Je me souviens par exemple de son dernier combat visible au sens médiatique, avant qu'il parte pour ses grandes vacances comme il disait, eh bien, c'est que des députés avaient voulu s'attaquer à la loi SRU qui impose la construction de logements sociaux. Et il était monté au perchoir en haut de l'Assemblée nationale pour dire « vous êtes en train d'oublier les petits ». Et il est arrivé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et à ce moment-là, ben évidemment, toutes les caméras étaient là, les journalistes et les députés. Et au bout de 3 semaines, finalement, ils avaient renoncé à cette mauvaise loi, en quelque sorte. Moi, j'ai pu voir à cette occasion-là la force qu'il déployait et comment il pouvait aller vers une société plus solidaire.
Très écouté par le grand public, très écouté par les politiques, il y a 5 ans, le candidat Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y aurait plus de sans-abri dans la rue. Nous sommes 5 ans plus tard. Quel regard portez-vous sur le quinquennat qui vient de s'écouler, sur cette promesse en particulier ?
Assez mitigé, parce que il y a des choses qui ont été intéressantes, notamment sur la question des personnes sans domicile, la volonté de mettre en place un plan un peu différent pour apporter des réponses aux personnes sans domicile, ça s'appelle le logement d'abord. Des choses ont été faites sur les territoires au niveau national, et ça partait plutôt dans le bon sens. Mais en même temps, il y a eu des coupes très très importantes budgétaires sur les APL, sur le logement social, qui servent vraiment justement à sortir du mal logement les personnes concernées. Et ça, c'est venu ralentir cette politique du logement d'abord et donc créer aussi des fragilités parmi nos concitoyens qui ont le moins de ressources, qui rencontrent plus de difficultés pour se loger. Et puis, il y a eu une autre phase, c'est-à-dire qu'il y a eu des choix inégalitaires d'un point de vue budgétaire, fiscal, avec la suppression de l'ISF, avec la baisse des APL, qui n'allait pas dans le sens d'un plus grand partage des richesses. Il y a eu quand même, à un moment, des redressements, on va dire les choses comme ça, parce que il y a eu la crise des Gilets jaunes, derrière ont été pris un certain nombre de mesures. On peut penser aussi à la période Covid, où quand même des moyens importants de l'État ont été déployés pour éviter des catastrophes supplémentaires. Mais voilà, le résultat, c'est qu'il y a quand même 4 millions de mal logés aujourd'hui, 300 000 personnes sans domicile fixe. Donc on est loin du compte. Et de notre point de vue, et je crois pouvoir dire que ça aurait été celui de l'abbé Pierre, on ne doit jamais s'arrêter tant qu'il y a encore des personnes qui sont à la rue. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. D'où l'enjeu de cette élection présidentielle, sur les enjeux écologiques, on le sait, mais aussi sur les enjeux liés à la lutte contre l'exclusion.
Et vous présenterez, la Fondation Abbé Pierre présentera son rapport annuel sur le mal-logement le 2 février prochain, donc 2 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Vous allez une nouvelle fois interpeller les candidats. En quelques mots, quelles seront vos propositions ?
Bah écoutez, on va les recevoir, on va présenter déjà le bilan le matin et l'après-midi, on va recevoir les candidats un par un pendant une demi-heure pour aller un peu au cœur de leur projet sur la lutte contre le mal-logement et les exclusions. Bah on va leur dire qu'il faut impérativement relancer la production de logements sociaux qui a baissé pendant ce quinquennat, qu'il faut accélérer la politique du logement d'abord, qu'il faut partager via la fiscalité, via le budget, les richesses dans le pays pour se donner la capacité d'agir. Mais c'est vrai dans le domaine de l'hôpital, dans le domaine de l'école, dans le domaine de la lutte contre l'exclusion, de la lutte contre le mal logement. Donc c'est déjà une philosophie qu'il faut partager. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la responsabilité de l'État, c'est de protéger les plus fragiles? Donc ça, on va en discuter et après, on va leur proposer, mais on le dévoilera le 2 février, un certain nombre de propositions très précises sur lesquelles on va leur demander de se positionner.
Merci beaucoup, Christophe Robert,
merci
d'avoir accepté de répondre aux questions d'Europe 1. Ce matin, vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci, très bonne journée. À bientôt.
Merci également.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est bientôt 6h10 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Le journal permanent, Alban Le Prince.
Le bout du tunnel, calendrier d'allègement des restrictions sanitaires dévoilé hier soir par Jean Castex. Trois échéances, l'entrée en vigueur du pass vaccinal lundi si le Conseil constitutionnel donne son feu vert aujourd'hui. Le 2 février, fin du masque en extérieur et du télétravail obligatoire. 16 février, réouverture des discothèques et reprise des concerts debout. Dans l'affaire des sondages de l'Élysée, décision du tribunal judiciaire de Paris attendue cet après-midi. 5 proches de Nicolas Sarkozy, dont Claude Guéant, sont jugés pour des soupçons de favoritisme et détournement d'argent public. À l'Open d'Australie, troisième tour en cours à Melbourne, Gaël Monfils affronte en ce moment Christian Garin. Le Français mène pour l'instant le Chilien 7-6, 6-1.
L'actualité culturelle à 6h10 sur Europe 1. Le vendredi, on prend soin de nos oreilles.
Avec Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous, bonjour Ambline, bonjour Julien.
Bonjour Stéphanie. Vous nous présentez ce matin un album très attendu, celui du groupe britannique Years and Years.
Oui, après 6 nominations aux Brit Awards, un album, plusieurs singles classés numéro 1 et près de 4,5 milliards de streams, Years and Years écrit un nouveau chapitre de son histoire. Ce nouvel album s'est fait sans deux des trois membres fondateurs, Mikey Goldsworthy et Emre Turkmen. Il appartient au chanteur du groupe Olly Alexander, désormais seul capitaine à bord de ce navire devenu projet solo. Nate Cole est disponible depuis ce matin et pourtant, c'est bien à l'appel de la nuit qu'il répond. Le premier single s'appelle Starstruck, un nouveau morceau dance à l'optimisme dévorant. On écoute un autre extrait, celui du titre Night Call, qui donne son nom à cet opus. Formé en 2010, Years and Years s'est vite distingué sur la scène musicale britannique, puis ensuite mondiale avec des mélodies synth-pop qui donnent une furieuse envie de bouger. Et puis ensuite, la voix caractéristique de son chanteur a fait le travail. Le groupe atteint le summum de sa popularité en 2015 avec le titre King, issu du premier album Communion. Olly Alexander a été très occupé par It's a Sin, une série diffusée sur Canal+, dans laquelle il campe l'un des rôles principaux, une série créée par Russell T. Davis, derrière Queer as Folk ou encore la dystopie politique britannique Years and Years. It's a Sin a été acclamée par la critique, elle revient sur l'épidémie de sida dans les années 80, à travers les vies entrelacées d'un groupe d'amis queer qui vit à Londres. Pour en faire la promo, Olly Alexander a interprété une reprise de It's a Sin, le morceau culte des Pet Shop Boys qui a inspiré son nom à la série. It's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. Pour ce nouvel album Night Call, Olly Alexander s'est entouré du producteur Mark Ralph, avec qui il avait collaboré sur le premier disque. Il a fait appel aussi à de jeunes compositeurs tels que Georgia Detonate ou encore George Reed. Les sonorités sont très 80s, on perçoit l'influence des Pet Shop Boys, de Donna Summer, de New Order. Le dénominateur commun de tous les titres de cet opus, c'est le côté dansant. Si vous organisez une soirée, un maximum 5 personnes, et masquées bien sûr chez vous ce week-end, c'est la bande originale qu'il vous faut pour enflammer la piste. En témoigne ce titre torride avec Kylie Minogue, A Second to Midnight, qui figure aussi sur l'album. Kylie Minogue
Gogh, invité donc sur Night Call. C'est le tout dernier album de Years and Years, le groupe britannique devenu le projet solo de Olly Alexander. Et cet album, Night Call, sort aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie Loire.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1, dans un instant la météo, le journal et une page blanche.
Qui ne va pas le rester longtemps. Si je vous dis que vous avez 90 jours pour dessiner une BD de 240 pages qui nous plonge dans les coulisses de campagne de 7 candidats à la présidentielle, vous me répondez, Omblin, t'es gentil, Julien, mais là je passe mon tour. Eh bien pas Mathieu Sapin et 5 autres dessinateurs qui se lancent dans ce projet un peu fou, nous raconter de l'intérieur cette trépidante course à l'Elysée. Carnet de campagne chez Dargo et Le Seuil sortira juste après le deuxième tour, et c'est une rechute pour le récidiviste Mathieu Sapin qui avait, souvenez-vous, déjà croqué la campagne de François Hollande en 2012, puis celle d'Emmanuel Macron 5 ans plus tard. Il va tout nous dire dans un peu plus d'une dizaine de minutes. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Un trompettiste aussi à l'aise dans le jazz que le funk ou le rock, je vous présente ce matin Ludovic Louis. Il a partagé la scène pendant 10 ans avec Lenny Kravitz, il a joué avec Kanye West et Jimmy Cliff. Rendez-vous avec Ludovic Louis, originaire du Havre, dans 20 minutes.
Et justement au Havre, quelle température fait-il ce matin, Anissa Haddadi ?
Alors ce matin, on aura 3 degrés au Havre, une journée un peu mitigée, c'est-à-dire que quelques éclaircies, des passages nuageux, et puis 7 degrés cet après-midi, c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal du côté de la Normandie, parce qu'il fait froid. Les températures ont bien baissé, on a un froid un petit peu plus vif ce matin, donc si vous mettez la doudoune, pensez aux gants qui vont avec. Sur le nord, les températures baissent, et dans le sud, on va avoir une sensation de froid, puisque le vent souffle encore fort, et le Mistral et la Tramontane jusqu'à 90 km/h. Qui font un petit peu baisser les températures. Alors ce matin, nous avons un peu plus de températures négatives. Moins 5 à Manosque. Tiens, on a un petit moins 12 à Barcelonnette là actuellement. Moins 4 à Belfort, moins 2 à Saint-Etienne, 0 à Lyon. 1 degré pour Paris, 4 à Dunkerque cet après-midi, 2 au Puy-en-Velay, 7 à Paris et 14 pour Ajaccio. Alors dans le ciel, on a beaucoup de nuages hein, entre l'Alsace et l'Auvergne. Des brouillards, attention, sur les Ardennes et la région parisienne. Et puis cet après-midi, on aura un ciel plus nuageux sur la moitié nord.
Merci beaucoup Anissa Haddadi pour toutes ces météos et une pensée pour nos amis à Barcelonnette qui ont très froid ce matin. Vous écoutez Europe 1. Très bonne journée à tous. Il est 6h. Encore 2 semaines avant de retrouver un peu de liberté. Fin du port du masque à l'extérieur, fin des jauges dans les stades de foot. Jean Castex a dévoilé le calendrier de la levée progressive des restrictions. Un agenda qui pourrait aussi coïncider avec l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Un stress pour les ados et leurs parents. La plateforme Parcoursup est ouverte. 10 vœux à choisir parmi 20 000 formations. Comment rester zen et surtout quelle stratégie adopter? Quelques astuces à suivre dans ce journal. Et puis ce procès hors du commun. Aujourd'hui à Paris, le responsable d'une association d'aide aux migrants est poursuivie pour exploitation de sans-papiers, un engrenage qui a fait plus d'une centaine de victimes.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. La sortie de crise est en vue. Message de Jean Castex aux Français hier soir. L'exécutif change d'approche face au variant Omicron, plus contagieux mais moins dangereux. 337 000 cas quotidiens en moyenne, un indicateur en hausse. Dans les services de réanimation, en revanche, la pression diminue. Une centaine de malades en moins en une semaine. Un critère crucial pour le Premier ministre.
Cette vague exceptionnelle n'est pas terminée. Mais je crois pouvoir vous dire que la situation commence à évoluer plus favorablement. La première évolution positive est que la vague liée au variant Delta est partout en net reflux. C'est très important car vous savez que ce variant Delta était plus dangereux que les variants précédents. Depuis une semaine, le nombre des malades en réanimation se réduit enfin légèrement. Et cette baisse devrait se prolonger à mesure que le variant Delta poursuivra sa décrue.
Une baisse des admissions en réanimation qui permet à l'exécutif de lâcher du lest sur les restrictions sanitaires.
Oui, avec une première étape le 2 février dans moins de 2 semaines. Fin du masque obligatoire en extérieur, fin des jauges aussi dans les stades et les salles de spectacle. Autre date à retenir, le 16 février avec la réouverture des boîtes de nuit. La sortie de crise sanitaire justement, c'était l'une des conditions posées par le président pour entrer en campagne. Alexandre Chauveau, le calendrier avancé hier soir par le Premier ministre ouvre la voie à Emmanuel Macron.
Oui, Jean Castex a en quelque sorte préparé le terrain pour la déclaration de candidature du président. L'objectif est clair, montrer que la stratégie du gouvernement a fonctionné et que les mesures prises en fin d'année dernière ont porté leurs fruits. Emmanuel Macron compte ainsi apparaître comme un président capable de prendre des décisions impopulaires, mais aussi de desserrer l'étau lorsque la situation le permet. Le chef de l'État avait officieusement conditionné son entrée en campagne à la baisse de l'épidémie. L'amélioration de la situation sanitaire devrait ainsi contribuer à accélérer sa décision. À l'Élysée, on confie que plus rien ne le retient désormais de se porter candidat à sa réélection. La majorité a d'ailleurs été missionnée pour défendre son bilan en insistant sur la gestion de la cinquième vague, pourtant très critiquée par les oppositions. Ordre a également été donné d'éviter la moindre polémique, comme celle autour des vacances de Jean-Michel Blanquer cette semaine. En clair, Emmanuel Macron attend que l'horizon soit parfaitement dégagé pour enfin officialiser sa candidature.
Précision signée Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Et puis dès lundi, le pass sanitaire se transformera en pass vaccinal pour les plus de 16 ans. Une application toutefois conditionnée à l'avis du Conseil constitutionnel attendu aujourd'hui. En Europe, l'Autriche a choisi une autre méthode. Le Parlement a adopté hier soir une loi sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes dès le 4 février. Une première en Europe.
C'est une machine à stress. Pour vous, adolescents ou vous, parents, la plateforme Parcoursup, ouverte aux lycéens en terminale depuis hier matin.
C'est la porte d'entrée vers les études supérieures. 800 000 jeunes ont un mois pour sélectionner une dizaine de vœux parmi 20 000 formations. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour s'assurer une bonne place? Les conseils de Louise Salé.
Une règle, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Dans les 10 vœux à indiquer sur la plateforme jusqu'au 29 mars, il est très important de choisir des filières sélectives qui sont souvent les plus demandées et des filières non sélectives. Thibaut Cogent travaille sur l'orientation post-bac pour l'étudiant.
C'est bien de sécuriser un petit peu ses choix en prenant un espace pour un vœu non sélectif, c'est-à-dire une licence qui n'est pas en tension, dans laquelle on pourra retravailler l'année prochaine un futur dossier pour recandidater aux formations qui nous ont refusées.
Il faut aussi bien s'informer des fiches synthétiques sur Parcoursup présente les formations et donne les critères de sélection sur lesquels les établissements s'appuient. Il y a aussi les sites de l'ONICEP et de l'étudiant, les salons et les portes ouvertes. Parcoursup, enfin, c'est une réflexion à mener en famille avec un peu de recul sur tous les conseils reçus.
Parfois, les parents se projettent un petit peu trop sur leurs enfants et ils aimeraient bien qu'ils fassent ce qu'eux auraient voulu faire. Un truc qui est bien avec l'entourage adulte, c'est de leur demander de parler des métiers de leurs collègues. On connaît les métiers de ses parents, mais peut-être que dans l'entreprise de ses parents, il y a des collègues dont on n'a jamais entendu parler, qui font des métiers particuliers qu'on ne connaissait pas.
L'étape suivante, ce sera les lettres de motivation à rendre avant le 8 avril.
Louise Salé.
C'est l'histoire d'une association d'aide aux migrants qui exploitait des sans-papiers. Procès hors du commun cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris.
Une association parisienne et trois de ses responsables sont jugés pour traite d'êtres humains aggravés. Vite Paris était agrémenté pour aider les migrants, notamment pour avoir une adresse administrative ou pour suivre des formations. Une mission totalement dévoyée, Gladys Lafitte.
Oui, pendant 10 ans, le président de l'association a mis en place un véritable système d'exploitation de ces personnes vulnérables. Des migrants convaincus que cet homme les aidait. 159 victimes ont été identifiées par l'inspection du travail. Elles étaient forcées à faire du soi-disant bénévolat. Maître Aline Chanu défend 52 victimes tombées sous l'emprise du président de l'association.
Il va faire payer des services qui en principe sont gratuits. Et donc on va avoir une mécanique de création de la dette. Il va leur proposer de travailler pour lui 60 heures, 80 heures par semaine. Il va leur faire croire que tout ce qu'ils vont faire pour l'association va leur permettre d'être régularisés. Tout est bidon en fait, hein. Quel que soit l'âge, la culture, ils vont être pris dans cet engrenage, ils vont être broyés en fait.
L'homme réalise comme ça 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il est accusé de s'être enrichi sur le dos de ses victimes qui subissaient humiliation et racisme et parfois des violences sexuelles qui feront l'objet d'un autre procès. Il risque 15 ans de réclusion criminelle.
Le récit de Gladys Lafitte.
6h passées de 6 minutes sur Europe 1. Et cette question, le déploiement de la 5G peut-il être un risque pour l'aviation?
C'est en tout cas la crainte d'une dizaine de compagnies aériennes américaines après l'installation d'antennes relais à proximité de tours de contrôle aux États-Unis. Plusieurs centaines de vols ont déjà été annulés cette semaine. Aurélien Fleureau, faut-il s'attendre au même problème en France ?
Alors, il faut d'abord savoir que les fréquences utilisées en Europe et aux États-Unis ne sont pas exactement les mêmes. En France, elles sont plus basses, donc il y a moins de risques d'interférence sur les radioaltimètres CERADAR qui permettent aux avions de connaître la distance précise avec le sol. Et puis surtout, les autorités ont pris les devants depuis de longs mois. La Direction générale de l'aviation civile a mis en place des zones de protection autour des 17 plus grands aéroports français. Un principe de précaution qui n'avait pas beaucoup plu à Orange, SFR, Bouygues Télécom ou Free, mais cela devrait maintenant permettre un déploiement plus serein de la 5G selon Gilles Brégand, directeur général de l'Agence nationale des fréquences.
Il y a peut-être une prise de conscience qui est un peu plus tardive du côté américain entre les différentes administrations concernées, mais c'est un problème technique qui a une solution technique. Et en France, on est en train d'arriver, je pense, au bout de ces tests et je pense que dans quelques mois, on pourra lever les mesures transitoires en constatant que les radioaltimètres et donc les avions fonctionnent bien en présence de 5G, bien sûr.
La situation devrait être normalisée mi-2022, le temps d'harmoniser les règlements au niveau mondial.
Aurélien Fleureau. Et puis un mot pour finir, tout simplement, merci. Merci à vous. Près de 50% des Français considèrent la radio comme le média le plus crédible à égalité avec la presse écrite. Résultat du baromètre Lacroix-Kantar Publ. Et ça, c'est sûr, c'est grâce à vous, Julien et Omblin.
Ah oui, bien sûr.
Et puis la crédibilité.
À votre journal régulier et à l'heure, tous les matins à 6h. Merci beaucoup,
Romain. C'est la ponctualité qui définit le journal de.
Voilà, exactement.
Mais les Français aiment les journaux ponctuels. Voilà.
Merci, Julien.
Merci. 6h08. Allez, on passe au sport.
Bah oui. Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec une bonne nouvelle pour tous les clubs de France.
Oui, Jean Castex a annoncé hier la fin des jauges dans les enceintes sportives dès le 2 février. 100% de spectateurs, c'est surtout une bonne nouvelle pour les recettes des clubs et fédérations.
Et vous entendiez d'ailleurs à 5h30 Serge Simon, le vice-président de la Fédération française de rugby, soulagé pour la tenue du tournoi des Six Nations qui commence juste après la levée de ces jauges.
On passe au football, Martin, avec un derby ce soir.
Oui, Lyon reçoit Saint-Etienne, deux équipes dans le dur. Saint-Etienne est bon dernier et se bat pour sa survie. Lyon est 11e. Loin de ses objectifs initiaux, mais le capitaine lyonnais Léo Dubois espère enclencher une bonne dynamique dès ce soir.
Qu'on soit battant, qu'on aille chercher justement les choses positives dans notre jeu, les buts, le plaisir et les victoires. Et le fait de gagner ce derby, ça va aussi nous pousser. Donc ça, c'est un match qui est ultra important pour nous, forcément.
Léo Dubois au micro européen de Maxime Cheuch. À la page foot aussi, c'est déjà fini pour l'Algérie à la CAN. Les tenants du titre ont été sortis hier, défaite 3-1 contre la Côte d'Ivoire. Et puis ne manquez pas Europe 1 Sport dimanche soir. Sepp Blatter, ancien patron de la FIFA, sera l'invité exceptionnel de Lionel Rousseau.
Handball et ça plane toujours pour les Bleus à l'Euro.
Oui, quatrième match et quatrième victoire hier contre les Pays-Bas, 34-24, malgré l'absence de Carl Connan, positif au Covid. Les Bleus ont pu s'appuyer sur leur défense et sur un gardien en état de grâce, Vincent Gérard, impérial malgré des conditions sanitaires toujours incertaines.
Il y a un vrai problème et c'est un peu une honte pour le handball, ce qui est en train de se passer. On est plus focalisé sur la loterie, on a tous peur d'apparaître positif et de devoir partir, donc c'est une situation qui est loin d'être plaisante.
Vincent Gérard chez nos confrères de Bein Sport. Prochain match pour les Bleus demain face à l'Islande.
Un mot de rallye, Martin, avec la première étape du championnat du monde.
Oui, le traditionnel rallye de Monte Carlo. Le monument fête ses 90 ans et accueille pour la première fois des voitures hybrides. Après la première journée de spécial, c'est le champion du monde en titre Sébastien Ogier qui mène la danse. Un Ogier intermittent sur asphalte cette année.
C'est un peu différent parce que c'est pas vraiment un début de saison pour moi. C'est plus voilà, le rallye Monte Carlo qu'on avait décidé de faire. Maintenant, après ça, il risque d'avoir une belle pause. Je devrais être en train de finaliser aussi un petit peu plus mon calendrier pour l'année. C'est de pouvoir annoncer ce qui va se passer pour moi, en particulier côté circuit également.
Et puis un mot de tennis, c'est très bien parti pour Gaël Monfils au troisième tour de l'Open d'Australie. Il mène 2-7 à rien face au Chilien Garin.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va croquer la présidentielle avec une mine de crayon affûtée. L'auteur de bande dessinée Mathieu Sapin sera avec nous pour nous parler de son nouveau projet. Une BD dessinée à 12 mains qui va nous plonger dans les coulisses de la campagne. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h12 sur Europe 1. Votre invité Julien est auteur de bande dessinée, scénariste et réalisateur.
Bonjour Mathieu Sapin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous parler de Carnet de campagne, coédité par Dargaud et Le Seuil, ou quand la bande dessinée s'invite au cœur de la présidentielle. C'est en tout cas le projet ambitieux dans lequel vous vous êtes lancé, une BD de 240 pages, c'est beaucoup, qui sortira au lendemain du second tour. Sauf que cette fois, contrairement à vos précédents albums où vous teniez seul le crayon qui croquait les candidats Hollande et Macron, là vous êtes rejoint par 5 autres auteurs et vous allez en quelque sorte infiltrer les équipes de campagne, c'est ça?
C'est exactement ça. Ouais, l'idée c'est de raconter de l'intérieur la campagne présidentielle. Et donc, on va être 6 avec moi à décrire les choses depuis les QG de campagne des différents courants, différents candidats. et aller sur le terrain, bien entendu.
Qui sont les 5 autres auteurs qui s'apprêtent à rogner leur sommeil ces 3 prochains mois? Parce que 240 pages de BD, c'est considérable, surtout dans ce temps imparti.
Oui, il y a un côté performance. Donc oui, les autres auteurs, donc, alors il y a Louison qui va décrire la campagne côté PS. Il y a Dorothée de Montfred qui va suivre la campagne pour Les Verts, et donc qui suit Yannick Jadot. Il y a aussi Coco Pello qui, lui, va suivre Les Républicains, donc LR. Il y a le dessinateur Lara qui va suivre Mélenchon. Et Morgane Navarro qui va suivre Éric Zemmour. Et puis après, on verra aussi sans doute Le Pen. Il y a aussi des à côté, puisque Coco Pello va suivre aussi Jean Lassalle. Enfin, on est un peu multitâche, quoi.
Et vous, Mathieu Sapin, vous allez suivre qui ?
Ah ben oui, je m'oubliais, je vais suivre, mais s'il est candidat, pour l'instant on ne sait pas, je vais suivre l'hypothétique candidat Emmanuel Macron.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie une nouvelle fois de replonger dans les arcanes de la politique ? Parce qu'à chaque sortie d'album, vous nous dites c'est terminé, on ne m'y reprendra plus, et à chaque fois vous repartez pour un tour. Vous êtes un peu le Sarko de la BD politique ?
Oui, voilà. Non mais c'est vrai que la politique, moi j'ai découvert ça en 2012 en suivant la campagne de François Hollande, et j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et c'est difficile de quitter ce milieu complètement parce qu'il y a quelque chose d'addictif. Et donc là, cette année, je voulais évidemment pas refaire quelque chose que j'avais déjà fait, mais le fait de le faire à plusieurs, c'est tout autre chose. Il y a une émulation, on est très complémentaires, parce que c'est une équipe qu'on a constituée il y a quelques mois déjà, hein, c'est pas du tout improvisé. On a une vraie équipe de campagne, on a un QG de campagne. Et c'était l'envie de raconter, puis aussi de transmettre ça, et voilà, après j'arrête, c'est officiel.
Qu'est-ce qui est addictif, Mathieu Sapin ? C'est la campagne en elle-même, son ambiance électrique, les coulisses, ou de voir les candidats à l'œuvre ? Parce que vous racontez ceci dans Comédie Française, juste après avoir rencontré Emmanuel Macron pour la première fois, ce type aurait pu me refiler un emprunt sur 50 ans pour acheter une Jaguar toute option, j'aurais signé. Ils sont si forts que ça, les candidats ?
Oui, c'est ça. Moi, ce qui me fascine, c'est la séduction. Enfin, c'est comment ? Parce qu'une campagne, c'est consiste à séduire, finalement, à donner envie de voter pour tel ou tel candidat. C'est aussi ce que j'ai essayé de raconter dans mon film Le Poulain, c'est-à-dire que c'est l'histoire de désir et puis d'énergie, et le côté addictif. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec les séries télé, parce que une bonne campagne, elle est construite avec des temps forts, avec des coups de théâtre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du récit. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de faire, parce que je l'ai pas précisé, mais l'album qu'on commence là est vraiment constitué comme un seul récit où chacun des auteurs va créer des séquences, mais qui seront entremêlées. Donc c'est un seul.
C'est-à-dire que vos coups de crayon vont se mélanger, il va y avoir une narration commune qui sera chronologique.
C'est-à-dire qu'il y aura une séquence de quelques pages faite par exemple Lara. Ensuite, on enchaîne avec quelqu'un d'autre, et après quelqu'un d'autre, et donc créer des ruptures. Et donc jouer sur les questions de rythme et de récit. Voilà. Et donc moi, je l'envisage vraiment comme une série télé, quoi.
Une série télé ou un magazine de campagne. Vous êtes en fait un peu à la tête d'une petite rédaction.
Ouais. Alors on a des réunions, on échange, mais c'est vraiment très collégial. L'idée, c'est vraiment que tout le monde s'exprime, et puis c'est de la politique aussi, finalement, à petite échelle.
Avec cette particularité, c'est que vous vous mettez en scène dans vos BD. Donc vous êtes un peu Tintin reporter et Hergé à la fois.
Ouais, et c'est le cas de tous les autres contributeurs, hein. C'est-à-dire que chacun, on a notre personnage, et donc on va suivre chacun des 6 protagonistes qui galèrent plus ou moins, parce que c'est pas aussi, ça dépend évidemment des états-majors, hein. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus facile d'accéder, d'autres moins, donc il y a vraiment un suspense. Moi, aujourd'hui, je peux pas encore savoir comment ça va se passer pour tel et tel, mais on joue de ça, c'est-à-dire qu'on se met en scène et on raconte les choses le plus objectivement possible, même si chacun raconte les choses de son point de vue, donc il y a une subjectivité assumée, quoi.
Et justement, comment ça se passe pour s'approcher au plus près d'un candidat ? Il faut négocier des semaines, des mois durant ? C'est ce que vous êtes en train de faire ?
Oui, on a commencé avant l'été, en fait, à commencer les démarches. Et puis, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la bande dessinée est vraiment devenue un outil. C'est depuis Quai d'Orsay, en vérité. Hein. Moi, je connais très bien Christophe Blain, le dessinateur de cette BD, qui a eu beaucoup de succès. Et les BD comme Quai d'Orsay ou mes BD ou Palais Bourbon sont très lus et considérés dans ces milieux-là aussi. Donc c'est, je dirais, plus facile maintenant de convaincre de l'intérêt de cette approche. On voulait surtout pas être instrumentalisé. Enfin, le but, c'est vraiment de raconter les choses en toute liberté, et d'assumer les off, comme on dit, mais du fait qu'ils sont dévoilés après l'issue de la campagne.
Avec le recul que vous avez, Mathieu Sapin, vu que vous en êtes à votre troisième campagne présidentielle, vous sentez que celle-là est intrinsèquement plus violente, plus électrique que les précédentes ?
Ce qui a beaucoup changé depuis 2012, c'est la dématérialisation aussi. Là, c'est une campagne qui se fait beaucoup à coup de vidéos, à coup de... C'est beaucoup sur Internet, sur les réseaux. Il y a beaucoup de désinformation aussi, des fake news, tout ça. C'est compliqué d'essayer de démêler les choses. Puis l'information est démultipliée. En 2012, il y avait pas les chaînes d'infos n'avaient pas pris la place qu'elles ont pris aujourd'hui. Twitter existait, mais c'était pas un outil aussi double tranchant qu'aujourd'hui.
Donc vous avez peut-être moins d'occasions d'approcher les candidats au plus près, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
Si, ça c'est pas le problème, mais ce que je veux dire, c'est que la campagne, elle se fait beaucoup sur le terrain médiatique, quoi. Alors qu'avant, c'était vraiment des rencontres plus physiques avec des meetings, quoi, tout simplement.
Merci beaucoup Mathieu Sapin de nous avoir présenté cette future bande dessinée qui va nous raconter les coulisses de l'élection présidentielle. Carnet de campagne, coédité par Dargo et Le Seuil, ça sortira le 10 mai. On vous souhaite une excellente journée et bon courage pour les 3 mois qui viennent.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
À 6h19 sur Europe 1, les titres, Alban Le Prince.
Visibilité, maître mot de l'exécutif hier soir qui a dévoilé le calendrier de levée des restrictions. Le 2 février, fin du masque en extérieur et de l'obligation de télétravailler. 16 février, réouverture des boîtes de nuit et reprise des concerts debout. Sur le pass vaccinal, il deviendra obligatoire à compter de lundi, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, la dose de rappel sera également ouverte aux 12-17 ans le 24 janvier, mais pas obligatoire. La menace d'une nouvelle guerre froide alors que les États-Unis ont autorisé les pays baltes à envoyer des armes à l'Ukraine pour se défendre en cas d'invasion russe. Le chef de la diplomatie américaine est à Genève aujourd'hui, rencontre cruciale avec son homologue russe.
On conclut cette semaine Omblin de la meilleure des manières en musique et avec votre partition. Et vous nous présentez aujourd'hui un musicien devenu l'un des trompettistes français les plus réputés sur la scène internationale. Il s'appelle Ludovic Louis.
La liste de ses collaborations, Julien, ferait pâlir d'envie les artistes les plus talentueux, des répertoires aussi bien rock, funk, jazz que hip-hop. Ses compagnons de route s'appellent Kanye West, Jimmy Cliff, les Black Eyed Peas et puis Lenny Kravitz, on va y revenir. Ce qui rend le jeu de Ludovic Louis aussi remarquable, et vous allez l'entendre, c'est son éventail des genres, la grande diversité de ses goûts et de ses compositions.
Ludovic Louis est un jeune musicien originaire de Martinique qui est né et a grandi au Havre.
Il découvre la trompette enfant grâce à un professeur dans l'école associative de jazz de la ville, terrassé par l'émotion que provoque chez lui le son de l'instrument. Il a 20 ans quand il s'installe à Paris et suit le parcours classique des musiciens qui débutent dans le métier. Ludovic Louis participe à des jams, des sessions d'improvisation dans des clubs.
Comment est-ce qu'un jeune musicien français se retrouve à jouer avec Lenny Kravitz ?
Comme dans toutes les belles histoires, Julien, cela commence par une rencontre, puis un coup de foudre. En 2009, Lenny Kravitz est de passage à Paris pour participer au concert Peace One Day. Ludovic Louis est invité par un ami saxophoniste à venir participer à une répétition. Le trompettiste se retrouve dans l'appartement de Lenny Kravitz. Et l'histoire va durer 10 ans. Ludovic Louis va parcourir le monde, apprendre beaucoup auprès de la star du rock connue pour être perfectionniste. Il enrichit ainsi son jeu et sur scène, ses improvisations font vibrer des stades entiers. Et puis il y a ce jour gravé à jamais dans sa mémoire. Quand à Las Vegas, il interprète un solo de trompette face à l'immense producteur, compositeur et trompettiste Quincy Jones et face à la légende Mohamed Ali.
Au gré des rencontres, l'enfant du Havre se retrouve à Los Angeles.
Oui, pour voir si j'étais capable de faire ce métier aux États-Unis, dit-il. Il s'installe au pays de ses idoles, Miles Davis, Roy Hargrove et Earth, Wind & Fire. Ludovic Louis veut se comparer à ce qu'il y a de mieux au monde. Et c'est entre Los Angeles et Paris qu'il enregistre son premier album solo, un concentré de musique qui représente toutes ses influences. Soul, funk, rock et caribéenne.
Avec Rebirth, comprenez Renaissance, Ludovic Louis tourne la page de sa carrière de musicien professionnel qui joue pour d'autres et démarre celle d'un artiste solo.
Il crée ainsi sa propre identité musicale et lui qui a accompagné de nombreux chanteurs pendant des années, met son instrument au premier plan, la voix passée sous silence. au profit de la trompette. Ludovic Louis avec Missing You, adressé à sa famille qui est en France alors que lui habite à Los Angeles, extrait de son premier album Rebirth. Il sera en concert au club de jazz Le Duc des Lombards à Paris ce soir et demain.
Merci beaucoup Omblin. Votre matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.